fait, qui correspond à la dissolution d'hyposulfite dans de l'eau. Alors, je voudrais rebondir là-dessus, d'abord parce que le fait est juste, mais la dissolution de l'hyposulfite dans l'eau est une réaction chimique d'hydratation. Et donc, il faut faire la distinction entre une dissolution qui chimiquement ne change rien et puis une dissolution qui, elle, chimiquement, a des effets. Par exemple, le chlorure de sodium a tendance à s'hydrater et donc, en plus des phénomènes de dissolution, il y a des phénomènes annexes qui sont quelquefois très importants. Alors, le chlorure de calcium, par exemple, lui, s'hydrate. Et l'hydrate de chlorure de calcium joue un rôle très important parce que la chaleur de dissolution, c'est à la fois la chaleur de dissolution plus la chaleur d'hydratation. Donc, mais enfin, on complique les choses là. Mais retenez que les phénomènes de fusion et de solidification ne sont pas des phénomènes chimiques, justement. Ce sont des phénomènes qui ne changent pas la structure chimique des matériaux, par opposition à d'autres mécanismes comme l'hydratation qui, eux, changent la structure des matériaux. Bon, voilà, je crois que tout le monde est là. On va pouvoir passer à la suite. Et certains d'entre vous ont trouvé que c'était compliqué. Je suis un peu désolé parce que on va forcément compliquer les choses au fur et à mesure qu'on va avancer. La question que je pose, c'est quand observe-t-on des eutectiques ? Vous m'avez entendu parler des eutectiques par-ci, des eutectiques par-là, etc. Est-ce qu'il y en a tout le temps ? Eh ben non, il n'y a pas tout le temps des eutectiques. Alors, vous avez compris que quand K est inférieur à 1, c'est-à-dire que le soluté B ou C est incompatible, il est rejeté dans le liquide, le diagramme a forcément une certaine forme, la température baisse, et donc là, on va vers un eutectique. Mais quand K est supérieur à 1, c'est juste le contraire, c'est-à-dire qu'il se trouve que l'élément rajouté est content d'être dans le solide, et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'eutectique. Alors, il y a un exemple, il y a deux exemples qui sont importants pour nous, les géologues. Alors, je m'aperçois que, donc, ici dans la présentation, c'est l'inverse de ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave. Donc ici, c'est la présentation de K inférieur à 1, c'est-à-dire des éléments qui sont incompatibles, et dans ce cas-là, on a des eutectiques. Alors, ces eutectiques, il y a un exemple, c'est l'orthose, ici, qui est monoclinique, avec les plagioclases, qui sont tricliniques. Alors, une fois de plus, c'est du vocabulaire, c'est du machin. Moi, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais moi, pas du tout. Et à chaque fois, j'ai besoin du diagramme pour essayer de comprendre tout ça. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que dans la classification des roches magmatiques et volcaniques, qui a dû vous être présentée dans les 4 années que vous avez passées avec Thierry, cette classification a été proposée, une classification a été proposée par un monsieur qui s'appelle Mason. C'est une classification qui n'est pas la seule, puisqu'il y a une autre classification qui est la classification de Streckeisen. Streckeisen. Elle est beaucoup plus compliquée et difficile à appréhender, alors que la classification de Mason est facile à comprendre. Alors, ça, c'est un retour sur ce que vous avez dans dans le document de Thierry. Vous avez ici la présentation de la classification de Mason, avec en haut les roches plutoniques. Les roches plutoniques, c'est celles qui se sont solidifiées à l'intérieur de la Terre, dans la croûte. Et les roches volcaniques, ce sont celles qui sont arrivées en surface. Dans les roches plutoniques, le plus connu, c'est le granit. Et pour les roches basaltiques, c'est le gabbro. On pourrait trouver des plutons de gabbro. Dans les roches volcaniques, la plus connue, c'est la rhyolite, qui a la même composition que le granit, à un epsilon près, aux éléments traces près, bien entendu, et que l'on trouve donc en particulier dans l'estérelle, ça donne de jolies roches rouges magnifiques. Et puis de l'autre côté, vous avez le ou les basaltes, je préfère dire les basaltes, parce que vous verrez qu'il y en a pas mal. Et les basaltes, ce sont les laves, c'est les îles Hawaï, c'est la Réunion, c'est le Décan, le plateau du Décan, voilà. Alors, ce monsieur Messon, il a sorti ce diagramme. Ce qu'il faut lire, c'est qu'à la verticale, ici, suivant une ligne verticale, vous avez la composition du magma ou la composition de la roche. C'est-à-dire qu'un granit, c'est du feldspath, du quartz, de l'albite, un peu de biotite, et puis de l'amphibole, c'est un petit peu comme le poivre et le sel, ça améliore, c'est la cuisine des dieux. Et le basalte, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est de la nortite et du diopside. Alors, question, est-ce que ces éléments forment des eutectiques ? Réponse, oui ! Eh oui ! S'ils ne formaient pas des eutectiques, ils ne fondraient pas à basse température et on n'aurait pas un magma. Le magma, c'est parce qu'il y a un eutectique de basse température et dès que sous nos pieds, on atteint pour ces compositions-là la bonne température, ça fond et on a un magma. Donc vous avez ici toute une série de magmas qui correspondent aux roches qui sont mentionnées là. Alors, moi, je vous demande déjà d'oublier toute cette partie-là, parce que je vous démontrerai dans les exposés suivants que ce sont des mélanges. C'est donc pas vraiment intéressant pour le moment. Il n'y a que deux vrais magmas, le magma granitique et le magma basaltique. Ce sont les vrais magmas, les autres, c'est essentiellement des mélanges. Alors, pourquoi ces mélanges donnent lieu à des eutectiques ? Eh bien, tout simplement parce que la structure des silicates qui forment ces mélanges est différente. Quand vous prenez un granit, vous apercevez que vous avez une structure monoclinique avec une structure cubique, une structure triclinique pour l'albite, une structure planaire pour l'biotite, planaire ça veut dire que c'est des plans qui les uns sur les autres, et les amphiboles c'est très compliqué, c'est plutôt sous forme de chaîne genre amiante. Eh bien, tous ces silicates sont incompatibles entre eux et vont former pas des, mais un eutectique qui est l'eutectique granitique. Dans ce cas-là, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 éléments qui vont converger dans un trou et qui aura la température de solidification la plus basse. Si vous voulez, pour comprendre un petit peu comment ça se passe, on va passer au diagramme à 3 dimensions, mais déjà je vous donne un petit peu une idée. Ici dans les Alpes, on comprend très bien, il y a des sommets, entre deux sommets il y a un faux col en quelque sorte, et puis tout ça, ça descend, et puis au fond de la vallée il y a un petit torrent, et puis le torrent il finit par se jeter dans un lac. Qui est le point le plus bas. Et c'est ça l'eutectique. L'eutectique, c'est le petit lac qui est en bas. Et quand on glisse sur les pentes, c'est la variation de la composition du liquide, on glisse sur les pentes, on finit par aboutir dans le ruisseau, et puis au bas du ruisseau, dans le lac. Voilà, c'est exactement ça la solidification. Le liquide, il démarre sur une des pentes, il descend tout ça, il se trouve dans une vallée eutectique. Une vallée eutectique le conduit automatiquement à un lac. À 3, 4, 5 constituants. Dans le cas des gabbros, il y a deux constituants, c'est plus simple, il y a de l'anortite et du diopside. Vous vous souvenez du diagramme que je vous ai montré, c'était ça, un diagramme, anortite, diopside, deux éléments qui ne sont pas compatibles entre eux, Et comme ils ne sont pas compatibles entre eux, ils forment un eutectique. Et cet eutectique, eh ben, c'est celui qui fabrique le basalte. OK ? On va en rester là. Ce n'est pas la peine d'insister. Alors, propriété des compositions eutectiques. C'est un petit peu abstrait. Mais une composition eutectique se comporte comme un corps pur. C'est-à-dire que il est tout solide en dessous de la température eutectique, tout liquide au-dessus. Bon, en fait, c'est assez simple. Alors, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous fondez, eh ben, ça va fondre à la température eutectique. Si vous solidifiez, ça se solidifie à la température eutectique. Voilà. Oui, mais la composition n'est pas forcément une composition eutectique. Vous pouvez avoir un mélange qui a donné... parce que la température est montée très, très haute, très au-dessus de la température eutectique. Donc le mélange est très riche et il est différent en un élément ou deux éléments de la composition eutectique. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, dans ce cas-là, la solidification va commencer avec la formation de ce qu'on appelle des phénocristaux, c'est-à-dire des cristaux primaires d'un des constituants. Et ces phénocristaux, ben, vous pouvez les voir quand on se balade et qu'on voit par exemple un granit avec des grains énormes, eh bien, ce sont des phénocristaux, c'est-à-dire ce sont les premiers cristaux qui se sont formés, qui ont souvent flotté dans le liquide, qui se sont enrichis, puis finalement le liquide a atteint la composition eutectique et tout s'est solidifié avec une structure fine. Donc on voit ces gros cristaux au milieu d'une structure fine. Voilà. Ça correspond à ça. Alors, ce même mélange, quand vous le réchauffez, vous le faites fondre, comment ça se passe ? Est-ce que ce sont les phénocristaux qui fondent les premiers ? Pas du tout. C'est le eutectique qui va fondre les premiers et les phénocristaux vont rester, eux, solides. Donc, avec un petit peu de chance, pour peu qu'il y ait un système qui ratisse un petit peu, on peut arriver à avoir le liquide eutectique qui part d'un côté et puis les phénocristaux qui partent de l'autre et on peut arriver à différencier comme ça la composition du mélange eutectique. Et vous verrez, je vous expliquerai que dans le magmatisme, des phénomènes de sélection de ce type-là sont très fréquents et ça rend l'étude du magmatisme un petit peu compliquée parce que ce qu'ils font en premier, c'est un peu comme une éponge, si jamais on presse dessus, le jus va partir à gauche, ce qui est solide va rester à droite. Et quand on arrive quelques milliards d'années plus tard, c'est un peu tard pour comprendre, mais on constate qu'il y a une poche qui a la composition d'un granit, et puis à côté, il y a une structure qui, elle, a une composition complètement différente. Et ça s'explique, par le fait que lorsqu'on a des compositions qui sont différentes d'une composition eutectique, à cause de la fusion précoce des eutectiques et d'une compression, enfin, c'est pas une compression, mais et d'un système qui va permettre d'extraire le jus, on peut avoir des poches, des plutons granitiques, en quelque sorte, dont la composition sera très différente de ce qui est resté solide. Alors, petit exercice.
La composition eutectique se comporte comme un corps pur et vous mettez le solide est formé de deux constituants.
Oui, je vous ai parlé de ce qu'on appelait une syncristallisation. Quand vous arrivez à moins 22 degrés avec l'eau et le chlorure de sodium, vous avez de la glace et du sel. Les deux se solidifient. Ah bon, il peut y avoir 4, 5. Je viens de vous dire que dans le cas du granit, il y avait 5 constituants. Alors, juste un petit exercice pour que bien rentrer ça dans vos esprits, et puis après on en parlera plus. Si je prends la composition, alors vous reconnaissez le diagramme dioxyde anortite hein, qui présente un eutectique ici. Donc, si je prends le cas 2, c'est la composition eutectique, et bien tout se solidifie ici ou tout fond à cette température, c'est le comportement d'un corps pur. Si j'ai une composition ici qui est hypoeutectique, c'est-à-dire qui est inférieure à la composition de l'eutectique, eh bien, on va commencer par fabriquer du dioxine. Hein, on aura des cristaux primaires de dioxine, des phénocristaux s'ils sont assez gros. Hein, et puis le liquide va évoluer et à la fin, eh bien, il y aura la solidification du basalte. Si la composition est située ici, eh bien, on fabriquera de la nortite d'abord et puis on finira par le tectique. Alors, ici dans le diagramme, c'est le cas inverse. Hein, on monte ici, on fond une composition qui se situe autour de 70% d'anortite, hein, donc une composition qui est assez éloignée d'une composition tectique, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on a des grains, des cristaux d'anortite à côté de cristaux de dioxyde. Alors, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des interfaces, hein, il ne faut pas qu'il y ait un gros caillou d'anortite et puis un mètre plus loin, un caillou de dioxyde. Là, ça ne marchera pas. Mais si vous avez des interfaces, c'est-à-dire vous avez un cristal qui est en face d'un autre cristal avec une distance qui est de l'ordre de quelques distances interatomiques, à ce moment-là, au miracle, quand on réchauffe ce mélange, eh bien, il se forme à cette température-là, la température eutectique, il se forme un liquide qui va avoir la composition de l'eutectique. C'est assez surprenant, mais c'est quelque chose qu'on observe physiquement souvent, et je vous en montrerai un exemple. Quand vous prenez un calcaire, alors un calcaire, un mélange de silicate plutôt alcalin et alumineux, et puis des silicates qui sont par exemple magnésien, ferromagnésien. Voilà. Quand vous chauffez ce mélange, il y a certains de ces silicates qui vont fondre, alors que les autres ne fondent pas. Les silicates ferromagnésiens ne vont pas fondre, alors que les silicates à base de sodium, et plutôt alcalin, eux vont fondre et vont former une composition granitique. Donc là, vous avez un matériau qui est hétérogène et qui va encore plus s'hétérogénéiser par la fusion de certaines zones, et au contraire, d'autres zones restant solides. Alors, c'est ce qu'on appelle les granites d'anatexie, hein, anatexie, ben parce que c'est les roches qui sont remontées en surface, enfin, pas en surface, mais qui sont remontées, elles ont été réchauffées, la pression a baissé, et la fusion de ces sédiments va être possible et va fabriquer un granit, des strates de granit, des petites strates de granit, alors que les strates plus ou moins métamorphisées de compositions différentes vont rester solides. On appelle ça une migmatite ou un granit d'anatexie.
La position R1 dans cette concentration, c'est-à-dire que la concentration R1 a été faite parce que le moment où ça s'est fait, ça n'était pas la même pression que...
Alors, elle peut être, ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement qu'il y a eu de l'érosion qui a amené en contact un mélange d'anortite et de dioxyde. Hein? Par exemple, dans l'exemple que je citais, où sont des sédiments, on peut très bien avoir des mélanges de dioxyde et d'anortite qui sont arrivés là et qui sont quelconques. D'accord. Simplement pour dire que dans ce cas-là, ici, bien qu'on ne soit pas à la composition eutectique, on va former quand même à la fusion du liquide eutectique. Voilà. Et donc, à partir de cette composition, on va ensuite remonter sur le liquidus. Et le liquide que l'on forme, eh bien, il va avoir cette composition là, jusqu'à ce qu'on atteigne ce point-là où là, tout sera liquide. Mais je vais vous l'expliquer, on n'atteint jamais la fusion totale. En géologie, ces diagrammes-là, c'est des diagrammes théoriques, c'est des diagrammes qu'on ne rencontre pas en géologie. La géologie, elle travaille à peu près dans cet espace-là. Là, et puis en dessous, évidemment, puisque on va jusqu'à la température environ. Mais en géologie, et je vous expliquerai pourquoi, on n'atteint jamais le liquidus et le domaine où tout est liquide. Pourquoi ? À cause de la pression. Quand on descend sous terre, il fait chaud, il fait plus chaud, il fait très chaud, mais en même temps, la pression monte. Et comme la pression modifie la température de fusion, ben, au fur et à mesure qu'on descend, il a beau faire plus chaud, et ben, ça ne fond plus. Donc il y a une tranche qu'on appelle l'asténosphère, dans laquelle ça va fondre, ou tout au moins une petite partie va fondre. On parlera de fusion partielle. Mais si on descend en dessous de cette zone, on rentre dans ce qu'on appelle le manteau inférieur. Et là, la température a beau être très élevée, 2000 degrés, la pression est tellement forte, de l'ordre de 35 000 atmosphères, 35 000 fois la pression de l'atmosphère, et bien à ce moment-là, les silicates ne fondent plus. Donc on a quelque chose qui pourrait fondre, mais qui est solide. Voilà, c'est ce qu'on appelle le manteau inférieur. Manteau supérieur, asténosphère, pour ce qui est de la partie qui veut bien fondre, la lithosphère, et puis la partie supérieure du manteau. Là, cette fois, la température est insuffisante, et donc c'est à nouveau solide, c'est à nouveau rigide. Je vous montrerai un diagramme, parce que ça joue un rôle très important en géologie. Alors, pour terminer sur les zootechniques, observe-t-on toujours des zootechniques ? La réponse, c'est non. J'avais commencé par ça, parce que je m'étais un peu mélangé les pédales. Lorsque K est supérieur à 1, c'est-à-dire que les matériaux sont compatibles, eh bien, ils ne forment pas des zootechniques. Alors, il y a deux exemples que je vais vous présenter. Le premier, c'est les plagioclases, c'est-à-dire des mélanges d'albite et d'anortite. L'autre exemple, c'est l'olivine. Alors, voilà le diagramme d'un mélange albite ici, anortite. Vous reconnaissez le liquide, le liquidus, et ici le solidus, et ici tout est solide. Alors, ça va peut-être vous choquer un petit peu, mais par rapport au diagramme que vous avez vu jusqu'à présent, le diagramme est tourné dans l'autre sens. C'est parce que comme K est supérieur à 1, eh bien, le soluté est en anortite ici, eh bien, le solide est plus riche en anortite que le liquide. D'accord ? Donc le diagramme, il a cette forme. Moi, j'y peux rien. C'est l'expérience qui donne ça. Alors, par contre, c'est comme avant, c'est-à-dire que le liquide donne ce solide-là. Comme il est enrichi en anortite, ben, le liquide est plus pauvre en anortite, et donc le liquide va descendre ici la courbe du liquidus et va se terminer par la formation d'albite. Quand vous avez un mélange albite-anortite, je vous rappelle que ce sont les plagioclases, eh bien, la solidification va se terminer nécessairement par la formation d'albite. Est-ce que ça se voit ? Non. Quand vous êtes sur le terrain et que vous regardez les plagioclases, quand vous regardez, par exemple, la labradorite, pour ceux qui ont acheté ces pierres-là, on en trouve de très jolies, quand vous regardez de la labradorite, on ne voit pas le début de la solidification et la fin de la solidification. Pourquoi ? Parce que c'est une particularité des éléments qui forment ce qu'on appelle des solutions solides. C'est-à-dire que on peut considérer que les plagioclases sont une solution solide de A dans B ou de B dans A. Et ils sont tellement compatibles entre eux qu'on ne peut pas faire la distinction entre ce qui est anorthite et ce qui est albite. Parce que les structures sont très voisines et qu'il est très facile d'échanger l'ion Na par un ion Ca. Et que si vous prenez une microsonde, vous allez vous en apercevoir. Vous allez vous apercevoir que les cristaux sont zonés. C'est-à-dire que le cristal qui a été formé ici et qui est riche en anorthite est donc riche en calcium. Alors que ceux qui sont formés à la fin de la solidification, eh bien, ils sont pauvres en calcium. Donc avec une microsonde, en regardant le grain, un grain particulier, vous allez dire, ah oui, tiens, c'est intéressant, il y a beaucoup plus de calcium à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cristaux jaunés. Si vous regardez à l'œil, vous ne verrez rien. Il y a une deuxième raison pour laquelle vous ne verrez rien, j'en parlerai pas, mais ça existe. Une fois que vous avez solidifié vos matériaux, eh bien, ces matériaux se refroidissent, ils restent au centre de la Terre, ils se refroidissent lentement, mais les diffusions en phase solide ont le temps de se produire. Il y a un deuxième phénomène, ces cristaux sont soumis à des contraintes, et sous l'effet des contraintes, vous avez une recristallisation, c'est-à-dire que tous les petits cristaux qui ont été formés à la solidification, eh bien, il y a des joints de grains qui vont migrer, qui vont se déplacer, il y a des grains qui vont grossir au détriment des autres. Et ce qu'on voit quand nous, géologues, on arrive, eh bien, on voit ce qui s'est produit non seulement à la solidification, mais pendant le refroidissement. Et donc il y a des tas de mécanismes, de phénomènes qui se sont produits et donc on n'a pas ce qui était juste à la fin de la solidification. Alors, une petite remarque, vous voyez que l'albite fond vers 1120 degrés alors que l'anorthite fond à 1550, et une des caractéristiques des solutions solides, c'est qu'il n'y a pas d'abaissement de la température de solidification. Donc, quand vous réchauffez un mélange et que vous formez un magma, ces éléments-là, les plagioclases, ne vont pas avoir tendance à former des magmas. Parce que pour commencer de former un magma avec ces éléments, il faut atteindre des températures très élevées qui ont au moins la fusion de l'albite. Et s'il y a eu des homogénéisations entre-temps, vous voyez que les températures sont plutôt de l'ordre de 1300 degrés, alors qu'il y a des eutectiques qui fondent à bien plus bas, le granit fond à 800 degrés. Donc ce ne sont pas eux qui vont être à l'origine des magmas. Donc dans la classification de Mason, vous ne trouverez pas ça. Dans la classification de Mason, dans la classification de Mason, vous voyez albite anorthite d'une même couleur, hein, ces silicates-là ne forment pas de tectiques, ils ne sont pas à l'origine d'un magma. Ils vont former des magmas avec d'autres matériaux, du quartz ou le pyroxène, le diopside. Mason devait connaître les eutectiques, je suppose, mais en tout cas, il ne les a pas introduits dans ces diagrammes, alors que ces diagrammes révèlent en fait l'existence d'eutectiques ou l'absence d'eutectiques. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors, un autre exemple, l'olivine. On aura l'occasion d'en parler beaucoup, l'olivine, évidemment. Alors, l'olivine, c'est un mélange entre la phayalite, c'est un silicate de fer, et la fosterite, qui est un silicate de magnésium. Voilà. Mais c'est une solution solide, c'est-à-dire que quand vous voyez de l'olivine, vous ne pouvez pas dire quelle est la concentration en fer ou en magnésium. Et elle peut être variable, d'un point à l'autre d'un cristal. Alors, pour mémoire, parce qu'on a tendance un peu à mélanger tout. Les péridotites dont on va parler, c'est des roches métamorphiques. Ce ne sont pas des roches qui ont fondu. Donc on ne va pas trouver dans des magmas des péridotites. Par contre, les péridotites, c'est elles qui constituent le manteau, et elles vont donc donner lieu à des magmas qui sont les magmas basaltiques. Voilà. Et les péridots, pour mémoire, parce qu'on en parle de temps en temps, ben, ce sont des pierres précieuses. Elles sont à base d'olivine, transparentes, et donc très jolies, et utilisées en géologie. Voilà. OK ? Pour faire la distinction entre une roche métamorphique et puis des roches magmatiques. Alors, c'est très rare de trouver des olivines fondues, parce que l'olivine fond quand même à des températures... les mélanges d'olivines fondent à des températures très élevées, mais l'olivine forme des eutectiques, et donc on va pouvoir trouver dans certains eutectiques des olivines fondues. Alors, un outil important en géologie, et dans la suite, je vous en présenterai plusieurs, et ce que je voudrais, c'est que vous compreniez l'utilité et comment on lit une microstructure. Alors, la microstructure, ça ne se voit pas à l'œil nu, il faut regarder au microscope. Au microscope, par réflexion, on voit mal les structures. Et comme les roches, si elles sont assez minces, sont transparentes, si elles étaient complètement opaques, on n'utiliserait pas les lames minces, mais par chance, elles sont transparentes lorsqu'elles font des épaisseurs très faibles, du genre dixième de millimètre. On voit très bien, elles sont transparentes. Et en lumière polarisée, alors la lumière polarisée, vous savez que la lumière, elle est dite circulaire, mais dans des conditions de réflexion particulières, où en passant au travers de certaines structures, on arrive à avoir un rayonnement qui n'est plus circulaire, mais qui est un rayonnement, mettons, vertical. Et donc, quand on analyse ce rayonnement vertical, eh bien, on peut le supprimer. C'est-à-dire que si vous avez un analyseur qui est croisé avec le polariseur, eh bien, il n'y a plus aucune lumière qui passe. Si vous introduisez entre les deux un cristal qui va légèrement faire tourner le faisceau, un cristal biréfringent, il va transformer la lumière rectiligne en une lumière qui est elliptique, et l'analyseur va alors voir des couleurs. Avec de la lumière blanche, on va fabriquer des couleurs. Et ces couleurs sont très révélatrices de la structure des cristaux. C'est pourquoi, en géologie, on utilise beaucoup l'observation de la microstructure sur des lames minces et en lumière polarisée. Alors, vous avez un exemple de plagioclase. Un peu plus loin, je vous montrerai un autre exemple. Vous voyez deux cristaux, enfin, 1, 2, 3, 4, 7. Vous pouvez identifier et séparer les cristaux. Vous pouvez aussi, en changeant l'orientation de l'analyseur, changer la couleur des cristaux et voir comment cette couleur varie. Vous pouvez observer, ça c'est un joint de grain. Et la forme des joints de grain révèle un petit peu ce qui s'est passé pendant la solidification. Et puis après, en particulier quand vous avez des phénomènes de recristallisation, et bien les joints de grain changent de forme, s'alignent. Vous avez ici des cristaux qui sont orientés de façon différente, puisqu'ils ont des couleurs différentes. Et entre les deux, il y a un plan très bien défini, c'est le plan de Mach. Vous avez ici deux cristaux maclés, et puis il n'est pas maclé seulement ici, mais maclé partout. Et les lignes droites que vous voyez, c'est la trace du plan de Mach avec le plan de la lame mince. Alors, pour les plagioclases, les macs sont un révélateur. Quelquefois, on les voit à l'œil nu sur une labradorite, mais si vous faites une lame mince à partir d'une labradorite, ben, voilà ce que vous allez observer. En tout cas, c'est un outil que le géologue va utiliser. Il va regarder la microstructure, il va regarder les phénocristaux, il va regarder la solution, et je vous expliquerai qu'il y a des phénocristaux que l'on observe dans certains magmas qui ne peuvent pas être expliqués par les diagrammes de solidification, et dans ce cas-là, on peut dire que c'est un mélange. C'est-à-dire qu'il y a eu un magma granitique, un magma basaltique, ils sont arrivés, ils étaient en cours de solidification, ils se sont mélangés, Et donc, on va trouver des phénocristaux du magma granitique à côté de phénocristaux du magma basaltique ou vice-versa. Et puis, à la fin, tout ça se mélange et forme un sol eutectique. Vous verrez, je vous montrerai. C'est, quand on le sait et qu'on vous explique, c'est une évidence. Alors, on a un peu de temps, c'est bien, on va compliquer. On va compliquer, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu des diagrammes ternaires, parce que en géologie, malheureusement, les diagrammes binaires, il y en a peu. La plupart des diagrammes sont des diagrammes ternaires et des diagrammes beaucoup plus compliqués. Alors, c'est un des points très difficiles de la géologie, c'est que quand vous avez un diagramme binaire, vous pouvez le mettre sur un plan. Quand vous avez un diagramme ternaire, c'est un volume, vous ne pouvez plus le mettre sur un plan. Et donc, on est obligé de travailler sur des coupes, et ça rend les choses très difficiles, et je serai obligé à chaque fois de vous expliquer en disant, attention, c'est une coupe, c'est-à-dire que ce que vous voyez ne représente pas tel élément. Alors, on ne peut pas représenter sur un plan quelque chose qui comporte plus de deux constituants. Voilà. C'est une difficulté. Alors, on peut quand même raisonner. Vous voyez, ça c'est la montagne, ça c'est le ruisseau, et ça c'est le petit lac qui est au fond, à la fin de la vallée eutectique. D'accord ? C'est pas si compliqué que ça, finalement. Là, vous avez cet axe, c'est la température, et puis vous avez trois constituants, A, B et C. Alors, A et B forment un eutectique, A et C forment aussi un eutectique, et puis C et B forment aussi un eutectique. Donc c'est un diagramme en trois dimensions, de trois composants, qui forment chacun de A2 des eutectiques binaires, et puis le petit lac qui se trouve le point le plus bas, c'est l'eutectique ternaire. Ça y est ? Vous arrivez à visualiser. Là, on a une projection sur le plan ABC. Une projection de quoi ? Ben de la surface liquidus. Vous avez ici les courbes de niveau. Voilà, voilà. Vous avez la représentation de la vallée eutectique. Alors, d'abord, l'eutectique entre A et C. La vallée eutectique qui conduit à l'eutectique ternaire E. Voilà. C'est pas si difficile que ça à lire. Hein. Il suffit d'être un peu patient. Et puis, on arrive très vite à s'en sortir. Alors, il y a un problème que tout le monde a, c'est les concentrations. C'est-à-dire, si je prends une concentration de 10% de A et puis le reste B et C, où est-ce que je me trouve ? On ne sait jamais si c'est là ou si c'est là, au contraire. Bon, il y a quand même un moyen mnémotechnique, c'est-à-dire que s'il y avait 100% de A, on serait là. Donc, si on a 10% de A, on n'est pas là. On est forcément là, donc sur cette ligne. Voilà. Et de proche en proche, ben on arrive comme ça à mettre une composition sur le diagramme. Alors, on va faire un petit essai. Hop ! Voilà. Donc là, on va ici regarder la solidification d'un liquide de composition P, pourquoi pas. Hein. Il a 60% de A, 10% de B et 30% de C. Ah ! Alors, 60% de A. Bon, ben, c'est pas ici, mais là, ça fait 90, 80, 70, 60. OK, on est sur cette ligne. Il a 10% de B. B est là. Donc, on n'est pas là, on est au contraire à l'autre, donc on est sur cette ligne. Voilà, c'est bien. Et puis, comme 70 et 10, ça fait 70, il faut bien qu'il y ait 30% de C. Et 30% de C, où est-ce que ça se situe ? Tiens, c'est marrant, ça en fait beaucoup plus.
Oui, c'est bon. Le 10, c'est en bas, sur la ligne AB. 0.
On est là. Le troisième, il est là. Voilà, je m'étais trompé, vous voyez, c'est pas si évident, voilà. Et 10, 20, 30% de C. Ça y est, on y est ? Bon. Donc là, on a sur ce diagramme la position, la représentation d'un liquide de composition qui est ici. Et on va regarder comment il se solidifie, parce que c'est ça le but de l'opération, c'est d'arriver à vous faire comprendre comment, dans un diagramme à trois dimensions, comment un mélange à trois composés se solidifie, et puis quelle est la microstructure qu'on va observer. Parce que c'est ça que je veux vous faire passer, c'est de vous dire attention, les microstructures, ça révèle énormément de choses, et je vais vous expliquer ce que ça révèle. Eh bien, ce point P, comme il est perce ici la surface liquidus, dans le domaine qui correspond au constituant A. Donc les cristaux primaires qui vont être formés sont des cristaux de A. Vous avez la microstructure à gauche. Et les premiers cristaux, les phénocristaux, si vous voulez, ça va être des phénocristaux de A. Alors ces phénocristaux de A, comme ils sont riches en A, le liquide, lui, il va s'appauvrir en A. Donc il va avoir tendance à descendre ici la pente, hein, il va descendre la pente et rejoindre la vallée eutectique. Voilà. Donc le cristal primaire, il va pousser, il va grossir, jusqu'à ce que le liquide atteigne la vallée eutectique. Voilà. Voilà là. La forme, la taille, on peut déterminer quel est le volume des phénocristaux, enfin, on peut faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on atteint ce point-là? Eh bien, on va former le tectique. C'est-à-dire que, à côté des phénocristaux, compte, en excroissance ou de façon complètement séparée, ça dépend de beaucoup de choses, on va former ici des petites rosettes de l'eutectique qui est donnée par la vallée eutectique. D'accord? Alors, il est formé de quoi cet eutectique? Eh bien, il est formé du composant A et du composant C. C'est un mélange, c'est des cristaux de A et de C qui poussent en même temps. Est-ce que la composition de cette eutectique est constante? Ben non, vous voyez que cette eutectique, d'abord il contient aussi un peu de B. Tiens, c'est marrant, j'ai dit qu'il n'y avait que du A et du B. Ben oui, mais le B il est dans le A et le C, il est en solution solide. Okay. Et cette composition, elle va varier, elle va suivre la vallée eutectique. Donc on va voir grossir ici cette eutectique, alors que les constituants primaires A et B ne bougent plus. Il n'y a plus rien pour les alimenter. C'est fini. Hein? C'est terminé. Tout ce qu'on peut fabriquer, c'est de l'eutectique. Et alors, on va arriver dans le lac, ici. Voilà. C'est la fin de la solidification. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se forme un eutectique qui est ici représenté et qui est un mélange de A, de B et de C. Trois cristaux, trois. Chaque cristal de A, de B et de C, il pousse en même temps dans cette direction ou dans cette direction. C'est, quand on les regarde au microscope, c'est très joli. Ça a des formes très particulières et très révélatrices des conditions de solidification, des impuretés, des traces, etc. Quand vous rajoutez des éléments sous forme de traces, il ne faut pas croire qu'ils restent inactifs. Souvent, ils sont à la surface de ce qu'on appelle les dendrites, c'est-à-dire les branches qui poussent dans le liquide. Ils en changent d'énergie de surface. Ils viennent empoisonner certaines dendrites au profit d'autres, si bien qu'au lieu d'avoir des cristaux qui poussent d'une façon uniforme et sous forme de sphère, bah, ce n'est pas du tout ça. C'est très aciculaire, en forme d'aiguille. Ça peut avoir des faces privilégiées par rapport à d'autres. Et ça explique que la très grande variété de cristaux qu'on observe. Quand vous voyez un cristal de quartz, il a une forme qui révèle la façon dont il a poussé. Voilà, et bien je voulais vous amener à ce stade-là, c'est-à-dire une microstructure un petit peu compliquée, qui est celle d'une andésite. Alors déjà, l'andésite, je vous expliquerai, c'est un mélange. Là, c'est la Martinique, donc c'est bien du volcanisme, il n'y a pas à dire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des gros cristaux primaires, des phénocristaux. Alors, il y en a certains, ils sont marrons, c'est un clinopyroxène. Comment je sais que c'est un clinopyroxène ? Ben, c'est parce que c'était marqué dans le texte, mais si j'étais le géologue, je l'aurais passé à la microsonde, et la microsonde m'aurait dit « Ah, attention, voilà la composition de ce truc-là, et ça ressemble à une composition de pyroxène. Voilà. » Tandis que ça, c'est une composition de plagioclase. Bon, d'accord. Alors, ces gros cristaux, vous voyez qu'ils sont ici, ils sont mal faits, quelque sorte. C'est parce qu'ils n'ont pas poussé d'une façon continue. Il y a eu des phases de croissance, puis d'arrêt, puis ont recommencé, puis sont arrêtés, etc. Dans certains cas, si le magma est réchauffé, ces particules peuvent fondre, et au contraire diminuer. Puis ça finira par se refroidir, donc grossir. Donc en regardant la forme de ces phénocristaux, on apprend beaucoup de choses sur la façon dont c'est formé, c'est solidifié le magma. Et puis vous avez les zones toutes petites ici, tout droit, et bien ça c'est le tectique. Alors, du pyroxène, du plagioclase, dans un granit, non, c'est pas possible. Donc il y a eu deux magmas qui se sont mélangés. Et le mélange de ces deux magmas explique probablement que la croissance s'est faite d'une façon irrégulière. Mais déjà, on peut dire, en regardant ça, c'est pas un magma, c'est au moins deux magmas. Juste un dernier point avant de terminer sur les diagrammes ternaires. J'aurai encore un petit peu à vous expliquer ensuite. Donc, on va faire le mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'on va réchauffer le mélange ABC. Et là, on constate expérimentalement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que même si le mélange ABC n'a pas fondu, à condition que les surfaces de A, de B et de C soient suffisamment proches pour que ça soit un contact physique, eh bien, on va former le tectique ternaire. C'est-à-dire que vous prenez trois éléments, vous les réduisez, mettons, en poudre, comprimez ça, de façon à ce que vraiment les faces de ces trois éléments soient vraiment en contact. Vous chauffez, bon, des fois il faut attendre un peu, parce que c'est pas immédiat, mais vous allez voir apparaître une goutte de liquide à la température eutectique. Et ce liquide aura la composition eutectique. Okay. Et si vous continuez de chauffer, eh ben c'est pas grave, le liquide il va remonter la vallée eutectique. C'est-à-dire que vous allez avoir un liquide qui va avoir une composition qui va tendre vers quelque chose qui sera moins riche en béton. Voilà. On va en rester là pour ce qui est des aspects théoriques. Avant qu'il y ait une question, oui, je vous en prie.
Est-ce que vous pourriez mettre comme adjectif là, à la place de technique ? Parce que quand vous mettez comme nom, une fois qu'on a une composition de technique, vous n'arrivez pas à bien réaliser.
C'est l'adjectif eutectique qui vous gêne, c'est ça ?
Non, c'est ce que tu l'as dit, c'est différent mot pour substantif ou qualificatif. Donc, évidemment, quelle est la définition finalement de ce terme ? J'ai un peu de mal aussi.
Je suis trop dans le bain pour pouvoir répondre à cette question. J'y réfléchirai. J'y réfléchirai. Alors, je voudrais aborder quelque chose de très pratique et que vous avez peut-être vu, que Thierry Grand vous a peut-être montré. En tout cas, j'ai un petit peu modifié son truc pour l'adapter à mon exposé, et qui est la fusion des roches. Donc, si vous voulez, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a trois éléments, A, B et C, qui forment des grains, et là, ils ont été représentés jointifs, comme s'ils avaient déjà fondu et solidifié, et on est en train de les refondre. C'est pas toujours le cas, mais bon, pourquoi pas. Tout ça pour vous expliquer comment ça fond, qu'est-ce qu'ils font, et puis pourquoi ça ne fond pas comme ça. Donc, on parle d'une roche qui est composée de trois minéraux ABC qui vont former, qui peuvent former un eutectique. C'est le diagramme précédent. Hein. Voilà. À 1200 degrés, au niveau de l'asthénosphère, j'y reviendrai, on va former un film liquide ici, entre les grains, un film qui aura la composition de l'eutectique. Et 1200 degrés, c'est la température donc, de l'eutectique. Alors ce film, il a une composition eutectique qui est évidemment différente de la composition de A, de B et de C. C'est ce que je vous ai montré dans le diagramme précédent. Si je continue de chauffer, eh bien, on va remonter la vallée eutectique. Voilà. La partie rouge eh bien, a la composition de la vallée eutectique, tandis qu'il reste encore les matériaux. Encore que l'un d'entre eux semble avoir disparu ici. Voilà. Et puis, si je continue de monter, bah, finalement, je vais tout fondre. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. La théorie. Mais est-ce que ça se produit? Eh bien non. Ça ne se produit pas à cause de la pression. La pression est trop élevée au centre de la Terre pour que je puisse tout fondre. Au laboratoire, je vais pouvoir le réaliser. Il n'y a pas de problème. Ça va tout fondre. Mais sous nos pieds, là, non, ça ne va pas fondre. Alors là, on va passer un petit moment pour réviser un certain nombre de choses que vous connaissez, mais comme moi, vous l'avez oublié. Voilà, donc ça, c'est la constitution de la Terre. Alors, commençons par le haut. Ça, c'est la mer. La plage, elle doit être à peu près là. Voilà. Là, c'est la croûte océanique. Sur la croûte océanique, il y a une couverture sédimentaire. Là, c'est la croûte continentale. Alors, la croûte continentale, quand on fabrique des montagnes, ben, elle s'épaissit. Donc, c'est ce que représente le diagramme. Une croûte océanique assez mince. Et une croûte continentale très épaisse, ça peut faire 50 km, 70 km, je ne sais pas, sous les Alpes, je crois que c'est 70 km, un truc comme ça. Voilà. Sous la croûte océanique et continentale, il y a ce qu'on appelle la lithosphère. Lithos, ça veut dire que c'est de la pierre, donc c'est une couche qui est rigide, la lithosphère. En dessous,
la lithosphère, excuse-moi, la lithosphère comprend le manteau supérieur et la croûte. La lithosphère, c'est pas le manteau supérieur. La lithosphère, c'est le manteau supérieur, c'est-à-dire la partie verte, plus les croûtes.
Plus les croûtes.
D'accord.
Plus les croûtes. Je suis bien d'accord. Absolument. Tout à fait.
D'ailleurs,
c'est ce que fait le dessin.
C'est tout à fait. Oui. Alors, sous la lithosphère, toujours dans le manteau supérieur, vous avez l'asthénosphère. Alors, comment est définie l'asthénosphère? Ah, l'asthénosphère, elle est définie par les sismologues. Les sismologues, ils ont regardé comment se comportaient les ondes. Ils ont dit, bah, tiens, c'est curieux, mais il y a une couche là où les ondes, elles vont lentement. Ce qu'ils ont appelé la low velocity zone. Hein, parce que les ondes, elles sont réfractées d'une certaine façon. Et cette façon implique que la vitesse est ralentie. Oh, pas des sommes dramatiques, hein. Mais comme c'est sur des distances, des épaisseurs très importantes, ça se voit. Ça se voit très bien. Et puis, il y a des ondes transversales, enfin, il y a trois sortes d'ondes, et cette zone ne transmet pas un type d'onde. Et donc, ça amène à penser que dans cette zone, il y a des il y a un liquide, il y a du liquide. Tout n'est pas fondu, mais il y a du liquide qui a été fondu. Avec les eutectiques, c'est une évidence. La lithosphère commence, l'asténosphère commence à une température de 1200 degrés et se termine vers une température de 2000 degrés, mais la pression à ce moment-là est de 25 GPa, gigapascal, alors que ici la pression n'est que de 2 gigapascal. Les géologues qui ont fait des mesures de fusion des roches savent que dans cet intervalle, les eutectiques du type eutectique basaltique sont fondues. Tout n'est pas fondu, mais le film liquide dont je vous ai parlé entre les bras, il est liquide. Donc, je propose, moi je ne suis pas un géologue, mais au moins entre nous, de simplifier, et l'asténosphère, c'est en fait la zone des eutectiques fondues. Et comme ces eutectiques sont fondues, elle est ductile. Il y a un peu un mystère chez les géologues pour savoir si l'asténosphère, c'est du solide, ou du liquide, ou du pâteux, ou si ça flue. Enfin, on trouve de tout. C'est sûr que si vous avez une structure qui est formée de grains avec un film liquide entre les grains, ça peut glisser les uns sur les autres, ça peut fluer, et ça ressemble à la fois à du liquide, du solide et donc du pâteux. Pour nous, ce sera très clair. C'est fondu entre les grains, et les grains sont solides. Vous voyez la distinction? En dessous, le manteau inférieur, il est à nouveau rigide. Pourquoi? Eh bien, parce que la température a beau grimper, la pression, elle grimpe aussi, et à 25 GPa, eh bien, le film liquide dont on parlait, il est à nouveau solide. Donc, ça a peut-être fondu, mais c'est solide. On parlera de manteau fertile. Ça viendra plus tard. Le manteau fertile, c'est un manteau qui est capable de fondre pour donner du basalte. C'est simple comme définition. Le manteau fertile, il est forcément dans cette zone. Parce que si le manteau est fertile ici dans cette zone, on ne peut pas le savoir puisque c'est solide. Donc le manteau inférieur, il est probablement fertile, mais il est solide. Donc il ne peut rien donner. Pardon ? Et on voit rarement de traces du manteau inférieur, effectivement. Ouais. En dessous, ça redevient liquide. Ah, bon, alors c'est contraire à ce que je vous ai raconté. Pas tout à fait, c'est parce que la composition a changé. Tant qu'on était ici, dans cette zone, on avait affaire à des péridotites, silicates de magnésium. Quand on va rentrer dans cette zone, on rentre dans une zone où on trouve du fer, de la silice, et probablement, ça c'est une interprétation personnelle, un eutectique silice-fer. Il existe effectivement un silicure de fer qui fond très facilement, et bien que j'ai rien vu dans la littérature de ce point, je pense que on a probablement ici un eutectique donc fondu de silice et de fer, alors que lorsque la température augmente et que la pression augmente, ce même eutectique se solidifie. Un noyau solide, autour du noyau, une zone liquide, une composition riche en fer et silicium. Ici, une discontinuité, on rentre dans le manteau inférieur, rigide, le manteau supérieur, partiellement fondu, une zone rigide, la lithosphère, une autre, enfin, la lithosphère qui comporte, comme on l'a bien fait remarquer, une zone rigide plus une croûte, et l'ensemble croûte et lithosphère forme ce qu'on appelle une plaque tectonique. Donc, quand on fait bouger les plaques tectoniques, c'est tout ça qui bouge. Sur quoi? Sur la sténosphère. Alors, j'anticipe, mais c'est pour vous faire comprendre tout ce que j'ai à vous expliquer dans les deux autres exposés. Ce qui va former du magma, c'est ça. Dans quelles conditions? À condition qu'on arrive à le pomper, en quelque sorte, ce magma, et qu'il ne reste pas entre les grains. Et ce magma, il va faire quoi? Il va monter. Bon. Et il peut traverser ça? Non. Normalement, il ne devrait pas y avoir de magmatisme, il ne devrait pas y avoir de volcanisme. On devrait effectivement arriver à fabriquer du magma, mais ce magma, il devrait rester en profondeur, on ne devrait jamais le voir. Dans quelles conditions le magma va-t-il monter et créer des volcans? Eh bien, chaque fois que les deux zones rigides, que sont la lithosphère pour la partie inférieure et la croûte pour la partie supérieure, ces deux zones rigides, il va falloir les casser. Alors, quand est-ce qu'on peut les casser ou quand sont-elles cassées? Au niveau des rifts. Donc là, on va avoir du volcanisme au niveau des rifts. Au niveau des dorsales, parce que au niveau des dorsales, tout ça s'ouvre. On a tellement tiré dessus qu'il reste très peu d'épaisseur et ça s'ouvre périodiquement en plus. Voilà. Et puis au niveau des points chauds, parce qu'au niveau d'un point chaud, ici, il y a un flux de chaleur très important et le liquide qui va monter très chaud, il va tout fondre. Il va tellement tout fondre qu'il peut le faire ici au niveau d'une plaque, d'une croûte continentale, type Hawaï, ou au niveau d'une croûte épaisse. Hein, et ça, c'est le Yellowstone. OK? Pas de questions? Alors, je reviens au diagramme. Vous avez compris dans le diagramme précédent? Voilà. Ça ne peut pas fondre. Ça ne peut pas fondre à cause de la pression. Tout ce qu'on peut faire, c'est rester à peu près dans ce domaine, qui est le domaine de la sténosphère. Donc, en quelque sorte, ça se simplifie. On n'a que deux cas à considérer, tout est solide, et là, tout n'est pas liquide, mais il y a un film liquide entre les grains, température de l'ordre de 1200 degrés, pression 10 000 atmosphères, un truc comme ça. Et on va s'intéresser à la composition aussi ABC, ces trois croix plus, et bien, une fois que le tectique est formé, et bien, vous voyez que A est réduit à une croix, B reste trois croix, C c'est quatre croix, donc le magma va être riche en A, appauvri en C, et donc on va trouver dans la composition technique quatre croix rouges, trois croix rouges et une croix rouge. D'accord? Vous voyez cet équilibre entre les matériaux. Alors, ce n'est pas tout à fait réaliste, en ce sens que le volume de liquide est très faible par rapport au volume de solide, typiquement 5%. Il n'y a bien que 5% qui font, 10% peut-être, mais jamais plus. Donc, il faudrait multiplier ça par des volumes, par les volumes respectifs. Alors, vous avez sûrement compris que ce qui fait monter le magma, c'est la densité, un effet de densité. Le magma est plus léger que les solides qui l'entourent. Et donc le magma va avoir tendance à monter. Je vous expliquerai, quand on regardera les magmas basaltiques, que la différence de densité n'est pas énorme. Elle existe. Elle n'est pas énorme. Elle est beaucoup plus importante pour un magma acide du type rhyolite. Donc, va avoir tendance, lui, à monter beaucoup plus facilement qu'un magma basaltique dont la densité n'est pas très différente de la densité des solides. Mais il y a quelque chose qui va aider le magma à remonter, c'est la différence de pression, car la densité du liquide varie beaucoup, très vite, avec la pression. Et donc, au fur et à mesure que le magma va monter, il va s'alléger, c'est une chance, et donc s'allégeant, il va monter encore plus vite. Donc là, on a un mécanisme, ici, qui va aider le magma à monter. Mais le problème, la difficulté, c'est d'extraire le magma, ce film entre les gras, et ça ne va pas se faire naturellement. Si vous ne faites rien, il ne se produira rien, et ça se resolidifiera. On aura des roches ayant une structure un peu particulière dans laquelle le film fondu a changé, a soudé les grains, et c'est un film fondu qui se trouve entre les grains. Je n'ai pas le nom de cette structure, elle m'échappe. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on extrait, comment on arrive à faire sortir le jus ici? Ben, il faut ce qu'on appelle des contraintes dépressives. Alors, quand on est dans un liquide, quand vous faites de la plongée sous-marine, vous êtes soumis à la pression de l'eau, ce qu'on appelle la pression hydrostatique. Cette pression est une pression qui s'exerce dans les trois directions. Ce n'est pas dans ces conditions qu'on va extraire le jus. Sous terre, c'est la même chose. C'est une pression hydrostatique. Les pressions dont on a parlé sont des pressions hydrostatiques. Et donc, les liquides sont bien soumis à la pression, mais ça ne va pas les aider à bouger. Pour avoir des contraintes dépressives, il faut avoir un système. Par exemple, quand vous tirez sur un corps, vous créez des contraintes dépressives. Donc, il faut des systèmes de contraintes créant la dépression, une dépression, pour que le liquide puisse sortir et apparaître sous la forme d'un magma. Donc ça vous explique que les conditions dans lesquelles les magmas vont apparaître, eh bien, dépendent de la géotectonique. C'est certain que si vous tirez sur une plaque et qu'elle s'amincit, vous êtes exactement dans les conditions d'une contrainte dépressive. Et donc là, vous allez avoir un magma qui va avoir tendance à monter. Comment plus vous amincissez la partie rigide, le magma va vraiment avoir beaucoup plus de facilité pour traverser. Donc dans ce cas-là, on observe effectivement du magmatisme et du volcanisme. Voilà, alors, exemple de fusion et de fusion partielle, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le granit d'Anatexie. Alors, un calcaire, c'est formé de couches alternées, plus ou moins riches en argile, et les zones riches en argile sont les zones qui vont fondre le plus facilement pour former un granit. Alors, les calcaires qui forment des granits d'Anatexie sont les mêmes calcaires que ceux qui sont utilisés pour le ciment, c'est-à-dire formés de couches à la fois alumineuses et de couches... Elles sont riches en quoi, les couches qui ne sont pas alumineuses dans... Non, ce n'est pas des carbonates. Non, ce n'est pas des carbonates. D'un côté, il y a les marnes, donc c'est des argiles, c'est des... Et puis de l'autre côté, c'est plus siliceux. Je pense que les couches grises ici, ça doit être un silicate de fer, du calcium. Et les couches ici peuvent contenir effectivement des carbonates, et puis des silicates d'aluminium qui fondent facilement. Ouais. Donc voilà un exemple d'une structure qui est juste à la limite de la fusion complète. Il y a des couches qui ont fondu, il y a des couches qui n'ont pas fondu, et puis pour peu que vous pressiez et qu'il y ait un peu de dépression, eh bien, on arrive à faire sortir le jus et former ici une structure magmatique fondue. Alors ce qu'on voit, c'est évidemment solidifié, mais en regardant la microstructure, on voit bien que ça a fondu et que ça avait une structure particulière, qui est en fait la structure d'un granit. on appelle ça un granit d'anatexie. Alors, je voudrais terminer par simplement l'effet de la profondeur ou de la pression. C'est pareil en géologie. Donc, la fusion des roches, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, elle se produit vers 1200 degrés entre 100 et 200 km de profondeur. À ces profondeurs, eh bien, la pression est de l'ordre de 20 à 30 000 fois la pression atmosphérique. Donc, vraiment, il y a de la pression. Cette zone-là s'appelle la sténosphère et cette fusion n'est que partielle, 5 à 10%. Alors, la pression joue un rôle important, non seulement sur la température et la composition des eutectiques, mais elle change aussi le comportement, pas le comportement, mais elle change les concentrations en éléments compatibles et incompatibles. C'est-à-dire que quand vous exercez la pression, vous imaginez facilement que les éléments incompatibles vont être poussés dans la structure au moment de la solidification. Pour les éléments incompatibles, pour les éléments compatibles, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. Mais pour les éléments incompatibles, on va les aider à rentrer de force dans la structure solide. Donc l'effet de la pression est complexe. Très complexe. Alors, c'est pour cette raison que les géologues sont équipés pour étudier les diagrammes de solidification à très haute pression. Alors, vous avez un exemple de système utilisé, une presse énorme, 800 tonnes, c'est déjà une grosse presse, une bonne presse, un échantillon minuscule, dans un creuset, ici. Alors, il va être chauffé à des températures 1100, 1200, 1500 degrés. Voilà. Il y aura un piston qui va venir l'écraser. 800 tonnes réparties sur une surface tout petite, on arrive à créer les pressions que l'on trouve à l'intérieur de la Terre. Toujours la même chose, des thermocouples. On peut mesurer les différences de température, on peut suivre la solidification en fonction de la pression. Enfin, on peut tracer, grâce à ce matériel, les diagrammes. Et puis après, en récupérant l'échantillon, en passant à la microsonde, en passant aux rayons X, etc., on peut savoir quelles sont les structures qu'on a fabriquées. Et donc, déterminer expérimentalement les diagrammes. Alors, il existe actuellement des bases de données très importantes. Grenoble est en particulier un laboratoire qui possède des logiciels de calcul, des bases de données qui permettent de calculer pratiquement tous les diagrammes d'état que l'on veut et que l'on peut utiliser en géologie. Voilà. Donc il y a à la fois la partie expérimentale et puis la partie théorique. Alors, un exemple, vous avez toujours cette technique diopside adortite. Voilà. À 0,1 MPa, ça c'est la pression atmosphérique. Et là, à 1 GPa, pour mémoire, c'est 37 km de profondeur sous terre. Et vous voyez ce qui se passe. La température est beaucoup plus élevée à 1 GPa, la température de fusion. Ça fait quand même 100 degrés d'écart, c'est quand même important. Et puis la concentration ici de l'eutectique n'est pas la même. Ici, la variation de l'eutectique, de la composition de l'eutectique en fonction de la pression. Alors, ça continue. Et donc, quand vous fondez un mélange diopside anortite qui, je l'ai déjà dit, est presque le technique d'un basalte, eh bien, vous allez fabriquer ici un basalte qui n'aura pas la même composition que celui qui est fabriqué à la surface. Autrement dit, si vous avez un basalte qui vient du fin fond de la sténosphère et qui était à une pression d'une dizaine de gigapascales, comparé à quelque chose qui s'est formé très proche de la surface dans le cas d'une dorsale, eh bien vous n'aurez pas la même composition. Ce sera le même basalte, mais ce sera dans les deux cas du basalte, mais il n'aura pas la même composition. Donc, deux basaltes différents. On verra tout ça plus tard. Voilà. Alors, pour terminer, il me reste 10 minutes. C'est juste un résumé de tout ce que vous savez et qu'on va utiliser pour la suite. Alors, maintenant, il n'y a plus rien qui va vous étonner. Donc, la fusion des roches commence par la fusion de deux tectoniques ayant le point le plus bas. Hein, c'est pas évident maintenant que vous savez ça. Le volume fondu, ben, c'est quelques pourcents. Hein. Oui.
Une question sur les quelques pourcents. J'ai un souvenir de Thierry disant que les quelques pourcents, c'est pas la même chose au fur et à mesure des âges géologiques. C'était plus.
Oui.
Ça vient du tout.
Oui, alors, bon, ben, la Terre était plus chaude autrefois. Déjà, premier point. Et donc, c'était plus facile de fondre des quantités importantes autrefois. Hein, je vous ai dit que au fur et à mesure que la température montait, on remontait la vallée eutectique. Donc, avec la température, on remonte la vallée eutectique et la fraction fondue augmente. Voilà. Alors, je vais quand même amoindrir ce propos en faisant remarquer que la composition autrefois n'était pas la même et que ce qui fondait autrefois avait une composition différente de ce qui fond aujourd'hui, en ce sens que les basaltes, autrefois, il y a donc, disons que le premier milliard d'années a vu la fabrication d'une croûte riche en granit et aussi certains basaltes, et la composition de ces basaltes, c'est ce qu'on appelle une comatite, et c'est quelque chose que l'on ne voit plus sur Terre, parce que les basaltes fondent avant les comatites. Donc autrefois, on a fondu des choses à des températures beaucoup plus élevées, à des compositions, la comatite est beaucoup plus proche d'une olivine. C'est presque une olivine. C'est des choses qu'on a fabriquées autrefois, qu'on ne fabrique plus maintenant. Donc à la fois les volumes, les températures et les constituants ont changé avec le temps. Pas trop, je vous expliquerai que les granites, eux, ça fait 3 milliards d'années qu'on fabrique des granites et que la composition des granites, elle n'a pratiquement pas changé. Donc ça dépend des matériaux. Alors, l'extraction du magma, ben vous comprenez maintenant pourquoi, si on veut avoir du magmatisme et du volcanisme, il faut des contraintes particulières, il faut des contraintes dépressives, on ne les trouve pas partout. La composition, on peut la trouver à partir de Meissen, et elle est fonction de la profondeur à laquelle la fusion se produit. La solidification, elle se produit suivant un équilibre qui n'est pas total, c'est un équilibre local, et le fait que l'équilibre soit local fait que la composition du liquide évolue et que la solidification se termine toujours par le tectique. Dans le sens inverse, les cristaux, alors les cristaux ou les grains ou la microstructure, tout ça, ça recouvre en gros la même chose. Ben, ça dépend de la composition et de la forme du diagramme. Si vous avez une composition qui est très différente d'une composition tectique, vous allez fabriquer des cristaux primaires ou des phénocristaux. Et de toute façon, à la fin, vous allez fabriquer une structure, en général très fine, qui est composée de différents constituants placés côte à côte et qui ont cristallisé en même temps. Après solidification, peut se produire une homogénéisation de la phase solide. Alors, c'est ce qui se passe pour les plagioclases, par exemple, ou les olivines. En général, elles ont un temps de refroidissement qui est très grand. Et ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des cristaux qui ne sont pas zonés. Quand l'homogénéisation n'a pas eu le temps de se produire, les cristaux sont zonés. Les gaz, eh bien, sont dans un état supercritique et sont donc dissous dans le magma et n'interviennent pratiquement pas. Il y a très peu de choses dans la littérature pour expliquer le rôle des gaz. Manifestement, c'est un domaine qui est encore le domaine de la recherche. Et donc, je ne suis pas sûr qu'en vous disant ça, ça soit juste. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans les dernières étapes de la remontée du magma, la pression diminue. Comme la pression diminue, les gaz vont sortir du liquide. Si vous avez une chambre magmatique où le magma séjourne assez longtemps, le gaz va pouvoir sortir. Et puis, ça va former des solfatares, des choses comme ça. Si le magma monte plus trop vite dans la cheminée pour que le gaz se dégage, le gaz il va se dégager à un moment ou à un autre. Si c'est dans la cheminée, il va faire des bulles, ça va faire des explosions, vous aurez un volcanisme explosif. Si c'est pas dans la cheminée, c'est à la sortie, vous allez avoir des bombes, vous allez avoir des laves qui vont contenir les gaz, les petites bulles de gaz vont exploser, ça va faire des chairs, ça va faire les laves AA à Hawaï, ou bien des
fluides.
Hein?
Des laves fluides.
Fluides. Non, mais je parle des gaz, là. Je parle des gaz qui explosent. Et si les gaz restent dans le solide, ben, ça va faire des ponts. Le gaz est encore à l'intérieur, mais il a formé des bulles. Et puis éventuellement des laves, des matériaux gazeux, mais ça ne se voit pas parce que le gaz est encore dissous dans la structure solide. C'est possible. C'est en les réchauffant qu'on s'en aperçoit, parce qu'à ce moment-là, les roches que l'on chauffe, ben, elles explosent, elles se démolissent. Voilà. Si je vous ai amené jusqu'à là, c'est parfait. Vous êtes mûrs pour passer au chapitre numéro 2.